Les petits papiers de 18h à 19h en direct tous les mercredis ou quelque chose comme ça, rediffusion de vendredi de 11h à midi. Pour cette émission de début d'année, on va commencer par désobéir, c'est vivre. La ZAD dut tester un petit détour évidemment puisque rien n'est réglé sur la ZAD à l'état actuel des choses, si ce n'est que la résistance continue et s'amplifie.
Toulouse, métis et populaire ! Toulouse, métis et populaire ! Toulouse, métis et populaire !
Et c'était elle, en Argentine, ça bouge, et depuis un moment, mais il est temps qu'on en parle. D'ailleurs, ils vous donnent tous rendez-vous, donc le collectif C'était elle, et ce vendredi à la chapelle, une soirée vraiment intéressante et vraiment alternative, et médiatiquement, bah justement, avec des vrais médias. On en parlera avec notamment Wen qui fait partie du Kombucha et qui organise cette soirée. Et également avec Anita et Fernando qui sont à Paris et qui nous viennent donc sur Toulouse pas plus tard que ce vendredi. Évidemment aujourd'hui 7 janvier, c'est le triste jour du décès de grand nombre de la rédaction de Charlie Hebdo. Bien sûr, grande émotion en France et sans doute un peu de partout puisque l'attaque donc a visé un organe de presse, un organe irrévérencieux, un organe relativement libre dans ses propos. Eh bien, plein de choses à en dire, mais je vais tout d'abord donner la parole à Yanis Yolontas, qui me semble être quelqu'un de tout à fait fiable, quand bien même, justement, sur tout son propos, j'aurai encore des choses à dire. Il nous dit ceci, « Désobéir, c'est vivre ». La fusillade qui a fait plusieurs morts à la rédaction de Charlie Hebdo confirme l'atmosphère liberticide qui, sous de multiples formes, menace actuellement la désobéissance, notamment sacrilège et satirique. Dans l'Hexagone, jour après jour, l'espace se réduit entre d'une part des intégristes religieux de tous bords qui descendent dans la rue les uns après les autres et menacent diversement nos libertés chèrement conquises et d'autre part une extrême droite qui gagne du terrain et se prétend le rempart contre ce fléau alors qu'elle est tout aussi nauséabonde et dangereuse. La confusion ambiante atteint des sommets et chaque nouvelle étape suggère de choisir entre la peste et le choléra. Dans la mise en scène d'une guerre de civilisation complètement imaginaire qui contribue à fabriquer la peur, les préjugés et le repli sur soi. Malgré les circonstances, certains prétendent, en France, que l'anticléricalisme et l'antifascisme sont désuets et passés de mode. C'est faire peu de cas de l'histoire, qui nous a montré que les fantômes meurtriers des intégrismes religieux et de la mulesse fasciste tentent régulièrement de faire leur retour. La laïcité n'est pas un combat d'arrière-garde, ni l'humanisme, l'antiracisme et l'antisémitisme des vieilles lunes au service de quelques pouvoirs. Ce sont des luttes plus que jamais actuelles, qui sont absolument indissociables de celles qui nous opposent à un gouvernement violent et parfois criminel à l'égard de celles et ceux qui désobéissent sur les ZAD et partout ailleurs à des politiques autoritaires, inégalitaires et destructrices. Ces luttes sont plus importantes et complémentaires que jamais, et la désobéissance ne se dissocie pas. D'ailleurs, elle ne se dissocie pas non plus. Même si elle n'est pas du goût de tout le monde, car désobéir, c'est vivre. Désobéir, c'est défendre le droit de choisir nos vies au-delà des idéologies mortifères qui nous menacent. Désobéir, c'est défendre la vie, parfois jusqu'à en mourir. Même si je ne partageais pas toujours l'humour et les positions de mes confrères de Charlie Hebdo, notamment dans les conflits qui ont opposé certains d'entre eux à mon ami Ciné, j'ai une pensée pour toutes les victimes et leurs proches, notamment mon ami Tinius. Même décédées, ces personnes restent néanmoins plus vivantes à travers les décennies de création qu'elles nous laissent, que les partisans d'idéologies mortifères qui les ont assassinées. Donc ceci est signé de Yanis Yolontas, membre du collectif de rédaction de Ciné Mensuel, écrivain, réalisateur et désobéissant effectivement devant les éternels quels qu'ils soient. Et donc c'est mort, donc 12 morts à l'heure où on parle avec 8 blessés dont certains très graves. Voilà, grande émotion dans toute l'Hexagone. Juste donc aujourd'hui, 7 janvier, des gens en République démocratique du Congo continue à mourir et il s'ajoute aux quelques 4 millions de morts déjà recensés depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc en République démocratique du Congo, où c'est pour des intérêts français et avec des armes françaises que l'on tue. En Syrie, des gens continuent également à mourir aujourd'hui. Également un peu de partout sur la planète, partout des gens effectivement continuent à mourir avec des armes made in France. Mais pas seulement bien sûr, mais la France est quand même très bien placée, quatrième vendeur d'armes, exportateur d'armes. Nous aujourd'hui nous recensons 12 morts et c'est terrible, et c'est terrible. C'est terrible de perdre un ami. Pensons aussi à tous ceux qui à travers le monde perdent tous les jours, des amis avec les armes dont nous faisons une fabrication brillante. Voilà, ceci n'exclut pas cela. Et bien sûr, il y a beaucoup d'émotions ici au petit papier. Et bien sûr, une énorme pensée pour tous ces gens. Juste un petit rappel, 26 octobre, ici, à Sivens, mort d'un jeune homme de 21 ans qui n'a pas eu droit, lui ni sa famille, à l'empathie du procureur, ni à des salutations du président de la République. Bon, c'est comme ça. Allez, on revient sur la ZAD du Testé, où la lutte continue plus que jamais. Et bien sûr, il y a toutes les ZAD en cours, ZAD de Roibon et toutes les autres ZAD, mouvement Notave, qui a également son lot de personnes inculpées. Et c'est loin d'être fini. Vous êtes sur les petits papiers, sur Radio Canal Sud, et on va écouter Camille, et qui nous fait le point sur la situation à la ZAD du Testé. Aujourd'hui, ça s'est passé, donc cet entretien, lundi, donc le 5 janvier 2015.
Toujours à la ZAD du Testé en compagnie de Camille. Bonsoir Camille.
Bonsoir.
Quel bilan rapidement on peut établir sur ce qui vient de se passer déjà?
Donc là on sort d'une période de vacances. Donc comme pendant toutes les périodes de vacances, il y a eu beaucoup de passages de l'extérieur, des gens qui venaient d'un peu partout. Ça a mis une bonne dynamique, il y avait des bonnes énergies. Et puis c'est la rentrée, donc c'est un petit peu plus calme d'un seul coup. On se retrouve entre nous, donc c'est l'occasion de se réorganiser, de se restructurer, etc. Puis bien sûr, on attend. On sait qu'au mois de janvier, il y a des grandes décisions qui vont être prises en haut concernant le barrage. Donc c'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent faire le barrage comme il était prévu à la base, en faire un plus petit, faire des retenues collinaires, des retenues des bassines ou tout annuler. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Il y a la pression de la FNSEA qui est assez forte et qui risque de les empêcher de prendre des décisions pertinentes. Et en fait, et du coup, ces décisions qu'ils vont prendre en haut, ça va vachement orienter la suite de la lutte.
D'accord. Donc wait and see, on attend et on va voir. D'accord. Et là, aujourd'hui, ici et maintenant, donc la situation est en termes d'organisation à la ZAD, un petit peu quoi, le moral des troupes et les besoins.
Donc les besoins, c'est pas mal par rapport au froid. Donc bois de chauffage, des couvertures pour isoler les cabanes et pour s'isoler soi-même pour dormir. Mais bien sûr aussi toujours à manger, notamment ce qui nous manque le plus, c'est les fruits, l'huile et matériaux de construction, donc du bois de construction, des bâches, de la paille, des clous, des vis, tout ça on a toujours besoin, des portes, des fenêtres aussi bien sûr, tuyaux de poêle.
Aujourd'hui, la ZAD du Testé est devenue une forme de ZAD emblématique, depuis notamment le décès du jeune Rémi. Comment effectivement les nouvelles personnes qui viennent voient ou comprennent ce qui se passe à la ZAD du Testé? Est-ce qu'il y a un autre regard ou voilà, qu'est-ce qui a changé en fait depuis le 26 octobre?
Alors, ce qui a changé, c'est bien sûr qu'on est beaucoup plus connu, qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont parlé de nous, donc. Il y a plus de gens qui viennent. Après, dans le fond, j'ai pas l'impression que ça ait changé énormément, parce que les gens qui viennent vraiment passer un moment, eux, c'est des gens qui sont dans les réseaux alternatifs, qui savent ce que c'est une ZAD, ou s'ils savent pas encore, ils savent à peu près à quoi s'attendre. Et c'est pas la mort de quelqu'un qui change ça. Ce que ça change vraiment, c'est plutôt par rapport aux gros médias qui viennent assez souvent parce que ils ont besoin de grains à moudre pour leur machine et il faut les gérer, c'est pas toujours facile. Voilà. Mais après au niveau vraiment des militants, ça change pas beaucoup.
Du côté des pro-barrages, donc des environs de la ZAD, comment ça se passe?
Oui, alors bien sûr, alors en face, ils sont vraiment en train de s'énerver. D'un côté, c'est assez positif pour nous parce que ça montre qu'ils ont peur de perdre le barrage. Ça veut dire que nous, on est en train de gagner. Et ben, il y a énormément de menaces sur toutes les routes environnantes. Il y a des menaces de mort de partout. Il y a plus de 50 menaces de mort entre Montauban et Gaillac sur la départementale. Il y a plein d'intimidations en tout genre. Et pour l'instant, c'est que des intimidations. Du moins, bien sûr, il y a eu aussi beaucoup d'exactions sur les routes, hein, des agressions qui ont eu lieu sur des gens ou sur des voitures. Mais en tout, il y en a peut-être une dizaine en 3 mois. Une dizaine d'agressions.
Quel genre d'agression?
Il y a eu des voitures cassées, donc pneus crevés, vitres cassées, sièges souillés d'urine. Il y a eu bien sûr des insultes, des menaces de mort. Et parmi les pires choses qu'il y a eu, mais ça remonte au mois de septembre, hein, c'est il y a quelqu'un qui s'est fait attraper par le PSIG, donc le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Gaillac, en présence d'une cinquantaine de pro-barrages qui étaient réunis pour venger l'agriculteur qui s'était fait soi-disant ouvrir sa volière de faisan. Et donc il y a eu un. Le gars, il s'est fait choper, il s'est fait humilier, doucement torturé par les gendarmes devant 50 agriculteurs énervés. Et alors après, il s'avère que cette histoire de faisan, la gendarmerie a fait une enquête qui montre que ce ne sont pas des zadistes qui ont ouvert la volière, ce serait donc un ou des habitants de Castelnau de Montméral et qui n'ont rien à voir avec la ZAD. Donc c'était peut-être un règlement de compte qui profitait de la ZAD pour être camouflé. Voilà.
Et donc, face à toutes ces menaces de mort sur les routes, etc., quelle réaction à la ZAD?
Ben bon, moi je pense qu'il faut qu'on continue à vivre, à mettre de la vie sur la ZAD, et puis tant qu'on est vivant, tant qu'on est nombreux, tant que ça continue, on n'a rien à craindre, ils viendront pas, et puis s'ils viennent, eh ben ce sera. Ils vont y perdre. S'ils viennent, ils vont y perdre et ils le savent. Je pense que c'est pour ça qu'ils viennent pas. Donc tant qu'il y a du monde et que ça vit, il n'y a pas de souci.
Un dernier mot, Camille. J'aimerais là, que tu fasses juste, voilà, un petit dernier mot pour que toi tu t'adresses, si tu veux bien, tu t'adresses aux gens qui sont à l'écoute, donc sur la radio, sur Internet. Et qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui?
Eh bien, je dis venez à la ZAD, venez passer du temps à la ZAD. Si vous avez des savoirs à transmettre, eh ben vous êtes vraiment les bienvenus pour animer des ateliers. Et si vous avez juste un petit peu de temps à passer avec nous, mais venez, venez, venez. Plus on a de passages et mieux c'est, on a besoin d'échanger avec l'extérieur. Donc avec vous. Bienvenue.
Eh, hey, y a une ZAD à tester. Ramène tes outils, tes amis.
Alors, ils croient qu'on va pas passer l'hiver, nous, on va faire de l'autoconstruction.
Quand même. Pas de barrage de Sivens. Pas de ligne à grande vitesse, Lyon-Turin.
Comme un bruit qui court.
Pas d'usine des mille vaches.
Tu vas l'aimer.
Pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes.
Bonio, ciao.
Tu connais. Gaillac, Albi, Montauban, vallée de la Vère, vallée du Descoux, vallée du Tarn. Toutes les vallées solidaires. Pas de barrage de Sivens.
On est prêt à se battre contre les grands projets inutiles.
Désobéissance légitime.
Comme la communauté mapuche opposée au barrage de Ralco au Chili.
Tu peux pas tester. Lazado testé,
barricade au testé, pas de barrage au Tescou.
13 hectares à sauver, en mode ZAD partout.
Viens te faire ta cabane, viens caillasser du renouche.
On repart en croisade, ici c'est Albi, c'est Hoche.
À Castelnau, Montmiral,
comme à Notre-Dame-des-Landes.
Y'en a sous le poitrail,
et on sait faire des planques.
Des arbres et du humus, des espèces en danger.
Y'a la princesse à sauver, que l'on appelle forêt.
Va te faire un barrage sur ta Seine ou ta Marne.
On garde nos bocages et pour eux on s'acharne.
Notre lutte défensive, c'est la permaculture. L'agriculture intensive appartient à l'histoire.
Viens pas test, la ZAD au testé.
Qu'on soit 10 ou 10 000, 100 ou 100 000.
Viens pas test, la ZAD au testé.
Ton grand projet inutile va se faire contester.
Viens pas test, la ZAD au testé.
Qu'on soit 10 ou 10 000,
100 ou 100 000.
Ne viens pas test, 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 l'azado testé.
Ton grand projet inutile va se faire contester.
À la ZAD du Testé, nous sommes en compagnie de Elios.
Bonsoir.
Alors Elios, tu t'occupes ici notamment de tout ce qui est culture, depuis notamment Semtazad. Alors est-ce que après Semtazad, ça pousse à la ZAD ?
Ouais, clairement, ça pousse. On a semé une parcelle de blé, voilà, avec des blés anciens, avec des paysans qui sont venus pour enfouir le blé avec des vaches en faisant de la traction animale, et le blé se porte plutôt bien. Après, c'est vrai que c'était dans des conditions assez difficiles parce qu'il pleuvait pas mal, quoi. Mais les vaches avaient pu passer alors que les machines n'auraient pas pu passer, un tracteur n'aurait pas pu passer dans le champ. Mais on a de bonnes surprises, le blé lève bien, quoi. Même celui qui n'était pas enfoui, il lève, il fait sa petite racine, et donc le champ a plutôt belle allure. Alors, il y avait comme idée l'idée de se réapproprier un peu ces savoir-faire, de travailler en association avec les animaux. Voilà, et donc on avait comme idée de faire du blé pour, dans le futur, l'autonomie et faire tourner le four à pain. Voilà. Et donc on a essayé de voir dans quelle mesure c'était possible, voilà, de travailler en association avec les animaux. Du coup, on a une partie de la prairie a été... On a décidé collectivement que ça allait être l'espace pour le blé. C'était compliqué d'imaginer de préparer le sol avec les animaux, quoi, parce que c'est une prairie, c'était très compacté avec le 25 octobre, beaucoup de gens qui ont marché dessus, etc. Du coup, il y avait eu un travail du sol avec des tracteurs en deux passages. Voilà. Ils avaient fait un labour et ensuite une préparation avec la herse pour préparer le sol, émietter la terre. Voilà. Et ensuite, on a semé le blé à la main, donc avec le geste auguste du semeur, avec donc un paysan vraiment du coin qui nous a appris ce geste, qui n'est pas si évident à réaliser, quoi. Et donc ensuite, il y avait deux paysans, donc un Rémi et Greg, quoi, un vieux paysan du coin, et Greg, un jeune qui vient de s'installer récemment, qui sont passés avec deux vaches gasconnes et un outil, une herse plate. Donc on a semé à la main, à la volée, on dit. Et ensuite, eux, ils sont passés pour enfouir le blé, quoi, très légèrement, à quelques centimètres de profondeur, quoi. Voilà.
Et ce blé devrait sortir vraiment pour quand ? Il est prévu ?
Alors la moisson, normalement, c'est en juillet, quoi. Et sachant que là, potentiellement, si il ne lève pas très bien... Bon, là, ça va, mais peut-être il pourrait y avoir un passage, en fait, un rouleau, c'est-à-dire rouler le blé, parce que le blé, il tâle, quoi. Il fait, à partir d'une plante, ça peut faire plusieurs tiges. Donc, potentiellement, on pourra peut-être passer un coup de rouleau, ça se fait traditionnellement dans le coin, peut-être en mars, quoi, avant de récolter, quoi. Mais comme c'est une prairie, a priori, qui était assez riche, il devrait pas y avoir besoin de trop s'en occuper, vu que c'est des variétés anciennes, assez rustiques, quoi. Ça devrait être une des seules choses qu'on ferait.
Quand tu dis prairie assez riche, ça veut donc dire que la zone humide en dessous, c'est-à-dire tout ce qui est l'humus, la force de la zone humide, est encore là ?
Alors... Zone humide, là, c'est là on parle des prairies, quoi. On parle pas vraiment de la forêt qui a les fonctions de zone humide, de filtration, etc. Donc là, concrètement, c'était des terres qui étaient utilisées pour l'élevage, pour les troupeaux, et où il y avait, du coup, ça veut dire des systèmes polyculture-élevage. Ça veut dire que là, il y avait des rotations entre deux cultures et des vaches qui pâturaient, qui fertilisaient les terres avec leur déjection. Donc c'est des sols plutôt riches, quoi, et profonds. Voilà.
Hormis le blé, quelles sont les autres cultures donc qui vous ont donné justement plaisir à faire, et comment ça s'est passé, si tu peux nous en parler?
Bah là, du coup, on avait... C'est vrai que dans cette saison, il n'y a pas grand-chose qui se sème, mais on a semé des fèves, des pois, de l'ail et des oignons. Voilà, et les fèves, le pois et l'ail sortent bien. Les oignons, j'ai pas l'impression qu'ils sortent. Voilà, donc on les a semés dans le coin potager. Et aussi, comme on avait pas mal de semences, on les a mis en bordure de la grande parcelle de blé. Comme ça, il n'y avait pas besoin de trop se casser le dos, pas besoin de préparer la terre. C'était déjà fait avec avec le tracteur et on a pu semer d'assez grandes quantités. Parce que c'est vrai qu'on est quelques-uns à œuvrer au jardin, mais sur la ZAD, il y a beaucoup de monde. Du coup, avoir une grande parcelle comme ça permet aussi de semer des grandes quantités, pour le coup, au moindre effort, puisque de toute façon, le travail, il était déjà fait, quoi. Et voilà, et ça, voilà, ça se passe plutôt bien.
La suite un petit peu de cette aventure, on va dire, végétaliste et horticole ici, donc sur la ZAD, comment tu l'envisages pour donc les mois qui viennent et jusqu'au mettons donc à l'été?
Ouais, bah alors il y aura la suite logique au potager avec des cultures de saison, voilà, des tomates, des courges, toutes les cultures de printemps et d'été, quoi. Donc plein d'autres choses. Et après, ce que j'envisage également, je pense au printemps, peut-être un atelier taille autour des arbres fruitiers qu'on a plantés. Ça serait chouette parce que, enfin, personnellement, j'ai pas le savoir et je suis pas sûr qu'on l'ait sur la ZAD. Du coup, faire venir des arboriculteurs bio du coin ou des associations, ça serait chouette. Et après, sur les projets de plus long terme, j'aimerais bien. Ça serait chouette de lancer, de faire des ponts avec d'autres lieux, d'autres fermes du coin, faire une coopérative d'entraide paysanne. J'imagine ça comme ça, aller donner des lieux, soit sur des exploitations agricoles classiques, quoi, familiales, plutôt en bio, bien sûr, pour donner des coups de main en échange de légumes ou de bouteilles de vin ou des choses comme ça, mais aussi sur des lieux collectifs. Un peu avec des principes de propriété collective qui existent dans le coin, quoi. Donc faire des chantiers d'entraide. Et après, sur le long terme, pour l'instant, c'est qu'au stade d'idées, quoi, débauche, mais faut qu'on s'organise pour imaginer une forêt comestible, je pense, sur la pinède qui a été déforestée. Voilà, la pinède, c'était une pinède des arbres pour l'exploitation forestière, quoi. Et je pense que ça serait chouette de recréer un écosystème forestier, mais avec des arbres fruitiers, quoi. Ça serait l'idée. Donc, y en a quelques-uns en France, il y en a en Belgique, il y en a plus, je crois, en Angleterre et en Australie, de ces systèmes issus de la permaculture, quoi. Et je pense que ça serait chouette de lancer une réflexion sur le sujet. Et il y a déjà notamment un maraîcher dans le coin qui fait de la permaculture chez lui, avec qui on en a un peu parlé, donc faut qu'on s'organise, quoi, mais je pense que ce serait un chouette projet sur le long terme.
Permaculture, tu peux décrypter ce mot pour les gens qui ne le connaissent pas?
Alors, permaculture, bon, déjà, il y a beaucoup de. Je crois qu'il y a plusieurs définitions, mais. Donc ça veut dire agriculture permanente. Donc c'est alors c'est à la fois une philosophie et à la fois on peut parler de système agricole issu de cette philosophie. En tout cas, l'idée c'est de recréer des écosystèmes stables ou pérennes et sur lesquels on va intervenir le moins possible, on va dépenser le moins d'énergie possible pour avoir une production agricole, quoi. Mais c'est l'idée de recréer un écosystème plutôt stable où on va peu intervenir, c'est-à-dire peu travailler le sol, voilà, il va y avoir peu d'interventions humaines et mécaniques, quoi. Voilà, c'est un concept assez large et que chacun peut s'approprier, je pense.
Elias, c'est ta partie un petit peu tout ce qui est justement culture au départ, agriculture ou pas?
Moi, j'ai fait des études longues, on va dire d'ingénieur agronome, mais c'était bon. On faisait du terrain, mais plus en mode enquête sociologique ou étude d'impact sur une zone, sur un territoire. Et c'était pas vraiment du terrain comme on le fait ici. C'était pas de la pratique. C'était voilà, c'est écrire des rapports, être dans un bureau, écrire des rapports, faire des analyses statistiques, quoi. Ici, enfin, c'est vraiment une approche sensible des territoires avec les gens qui y vivent, une approche politique aussi. Et voilà, donc ce que je fais ici, c'est beaucoup plus riche que ce que je faisais avant.
Quand es-tu venu à la ZAD?
Alors, je suis venu ici à la ZAD. J'étais passé une fois en mars parce que j'étais venu faire taille de la vigne chez un paysan que je connaissais, qui est à la Confédération Paysanne par ailleurs. Voilà. Donc j'étais passé vraiment une fois juste une journée pour voir. Et après, je suis venu au fait le 25 octobre avec la transhumance du sud. Voilà, il y avait deux transhumances, une du nord, une du sud, qui venaient. Transhumance militante contre le puçage électronique des brebis et l'industrialisation de l'élevage. Voilà, donc c'était trois jours de marche. Ça commençait à grouiller, donc c'était à peu près 40 km pour venir en trois jours. Et voilà, l'idée c'était de faire des ponts entre ici, ce qui se passe sur la ZAD, et d'autres luttes, quoi. Et donc je suis venu ici, je suis resté ici le 25, et voilà, à la base, c'est vrai que j'avais un peu peur ou j'étais pas trop chaud pour venir du fait de la répression policière, etc. Et j'ai vu qu'il y avait des choix de dynamique collective, des assemblées générales, et que ça valait le coup de s'investir ici, quoi. Donc c'est ce que je fais à plein temps.
T'es parti pour rester, quoi.
Ouais, clairement, ouais, je suis parti pour rester. Voilà, au moins une saison de jardinage, plus si affinité.
Tu as quel âge, Elias?
25 ans.
Et tu es d'originaire de quel coin?
Moi, j'ai grandi en Lorraine, dans le nord-est, et j'ai étudié à Toulouse et travaillé un peu à Toulouse, voilà. Donc, ça fait quand même un peu plus de 5 ans que je suis dans le sud-ouest et à Toulouse, quoi. Voilà. Et j'avais un peu... Mon lien à la terre, il était dans le Tarn, parce que j'avais fait un stage à Montance, chez un paysan bio... Voilà, un vigneron bio qui fait aussi de la polyculture élevage, quoi.
Mais dans tous les sens du terme, tu étais déjà près d'ici.
Ouais, j'étais près d'ici, ouais. Mon lien à la terre, moi j'ai grandi à la campagne dans le nord-est, si, en allant faire des balades en forêt, mais sans être près du milieu paysan ou du milieu agricole, sans avoir vraiment de lien à la terre, quoi. Et le lien à la terre, je l'ai trouvé ici, dans ce coin, quoi. Par hasard, parce que j'ai trouvé ce stage dans le Tarn, quoi. Et du coup, ça fait vachement sens de revenir ici et d'essayer de participer à la vie du territoire, quoi. Du coup, c'est pour ça que là, je m'enracine ici, on va dire.
Je vais te laisser dire peut-être un dernier mot. Là, carrément, tu peux t'adresser aux auditeurs de la radio. Donc, ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui à tous les gens qui peuvent écouter.
Eh ben, la ZAD, c'est ici, mais la ZAD, c'est partout. Voilà, faut vraiment que chacun se prenne en main pour se réapproprier tous les savoirs, tous les savoir-faire, d'un point de vue pratique et politique. Et franchement, vous êtes vraiment, il y a vraiment, faut pas se dire qu'ici, vous êtes vraiment les bienvenus, et il y a vraiment besoin de vous, que ce soit pour une journée, quelques jours ou plus long terme. Il y a vraiment... Chacun peut apporter quelque chose ici, ailleurs également, mais ici aussi. Donc franchement, si vous êtes dans le coin, faut pas hésiter à passer, faut vraiment pas hésiter à venir voir ce qui se passe ici, et même avoir une modeste contribution ou même un passage, si vous êtes curieux, vous serez toujours... J'espère bien accueilli à la ZAD, et il ne faut vraiment pas hésiter à venir.
Merci Elias.
Yes, super, merci.
Tout de suite, on va enchaîner avec Kolifata. Donc, c'est de la, donc, et on se retrouve en Argentine avec notamment donc, DTL et toute cette ambiance-là. C'est parti.
Aquí transmite el T22, Radio La Kolifata, directamente de l'hôpital Borda.
Yo estoy en el manicomio. Pero quisiera salir para pedir a quien sea por mis queridos hermanos que necesitan cariño, pero también alimento, porque no hay verso ni nada que reemplace el sustento.
Bueno, la verdad es que voy a venir siempre a visitarlo y voy a venir a la radio. Yo la verdad es que voy a ir a nuestros zapatos que todavía no me jubilaron de la Malvinas, así que no me van a jubilar. Yo lo tengo en trámite, ya lo hablé al padre Gustavo de acá de esta iglesia, que me haga los trámites porque yo no puedo hacerlo porque soy enfermo mental. No es válido que lo haga yo el trámite, por eso me lo está tramitando el padre.
Yo estoy en el manicomio.
Siempre fui loco.
Yo estoy en el manicomio.
Siempre fui loco.
Yo estoy en el manicomio.
Siempre fui loco. Yo
que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales. Pero que el remedio es peor que la enfermedad. Paranoia, base neurótica, obsesiva, siempre lo fui también en la infancia cuando era feliz. Pero a los 19 años y 4 meses estar en el hospital, me tomó un síndrome confusional.
Siempre fui loco. Siempre fui loco. Siempre fui loco.
Yo estoy en el manicomio.
Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos.
A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. A veces tenés ganas de salir corriendo de acá, pero a veces tenés ganas de entrar corriendo otra vez para acá adentro.
Loca.
Siempre fui loca.
Loca.
Siempre fui
loca.
Yo estoy en el manicomio.
Como no te pasa, no me interesa, ¿no? Hasta que te sucede, caes ese mundo, ¿no? Como caes enfermo a este, que tampoco a mí me interesaba.
Hay distintos tipos de agresión. Voy a escuchar, ignorar, sobremedicar.
Esta noche es la noche de noche.
Y esta noche es la noche de DTL. Bonjour, Fernando. Hola, Fernando.
Bonjour.
Oh. Sí. Hola, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Acá acostumbrándome al clima europeo.
Donc Fernando, voy a traducir al mismo tiempo, ¿eh? ¿De acuerdo?
Sí. Hein?
Donc je demande à Fernando, qui est donc un des fondateurs de donc du collectif DTL, et donc comment ça va? Il me dit qu'il est en train de s'habituer donc au climat de l'Europe. Et Fernando, a ver, volvemos a la origen de todo. ¿Cómo empieza esta historia de DTL? Tout d'abord, Fernando, comment ça commence cette histoire de DTL? ¿Cómo empieza?
Bueno, DTL empieza muy mezclado a lo que fue la crisis del 2001 en Argentina y todas las grandes movilizaciones que hubo en esa época.
Te paro, ¿eh? Entonces, DTL, ça commence en fait suite a la gran crisis de 2001 en Argentina y todas las movilizaciones que hay eu sur place a ese momento. Sí, seguí.
En ese momento surgen muchos grupos de comunicación. Y grupos que existían desde antes tienen mucha repercusión, mucha más participación de la que tenían y mucha más gente que les presta atención, porque en realidad hay una gran crisis de todas las instituciones, sea los políticos, la economía obviamente, pero también incluso los medios de comunicación.
Ok, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, donc pendant la crise de 2001, donc il y a eu une plus grande audience prêtée aux médias qui étaient déjà en place, ainsi qu'à tous ceux qui se lançaient, donc une plus grande regroupement autour d'eux, parce que la crise donc a été une crise donc non seulement des institutions, mais une crise économique, une crise beaucoup plus générale. Si.
En ese momento, entonces, muchas personas que querían cambiar cosas en la sociedad no creían en los canales que existían antes, entonces buscan distintas maneras. Se involucran en los movimientos de desocupados, en las asambleas barriales y también en estos nuevos colectivos de comunicación.
Ok, donc à ce moment-là, les gens, justement, ils se détournent des moyens de communication habituels et ils s'intéressent beaucoup plus donc à toute une mouvance qui est plus donc dans quelque chose de plus alternatif. Ils vont plus vers les mouvements d'occupation, les mouvements aussi de quartier et donc et les nouveaux mouvements donc de nouveaux médias. Mm-hmm.
Además de medios como páginas de internet o agencias de noticias o periódicos, empezamos algunos años después a experimentar también con otras cosas, por ejemplo, la televisión.
D'accord. Après avoir donc pas mal investi tout ce qui était les pages internet et d'autres moyens de communication, à un moment donné, on s'est tourné vers notamment d'autres moyens, notamment la télévision. Si.
Entonces un grupo de amigos, de militantes que nos conocíamos de las asambleas o de las manifestaciones, empezamos a hacer transmisiones de televisión justamente en lo, en, sean en los piquetes, en los cortes de ruta, o también en los barrios populares.
Alors avec des copains, donc des camarades qu'on s'était rencontrés lors des assemblées populaires, on a commencé justement à amener donc des émissions de télévision, que ce soit donc dans les piquets, c'est-à-dire les endroits où on coupait les routes notamment pour manifester, et également donc dans les autres lieux d'occupation.
Mm-hmm. Bueno, en esa época empezamos a trabajar en una villa de Buenos Aires que se llama Villa 20 de Lugano.
À ce moment-là, on a commencé à travailler donc dans un bidonville à côté de Buenos Aires, donc bidonville 20, Villa Lugano. Oui, d'aller.
En ese momento, como grupo, no teníamos un nombre.
Et à ce moment-là,
nos grababan, nos decían el grupo de tele, el grupo de que se dedicaba a hacer tele, televisión.
Et à ce moment-là, on n'avait pas vraiment de nom, en fait, en tant que collectif. Mais par contre, les gens, ils nous identifiaient comme étant les gens de la télé. De la télé. Mm-hmm.
Y de ahí surge el nombre del grupo. En un momento, después de varios años de estar haciendo cosas, vimos que necesitamos tener un nombre y surge como un juego de palabras esta sigla de nuestro nombre, que en realidad no es algo formal, sino que es un juego de palabras, el grupo de tele, grupo de tele.
Donc c'est à ce moment-là, en fait, au bout de plusieurs années, en fait, de faire effectivement ces programmes de télévision, eh bien donc on a remarqué qu'il fallait qu'on ait quand même un nom, et ça a été une forme de jeu, comme un jeu de mots, effectivement, qui a donné donc les gens de la télé, des TLE. Si.
Ahí hay dos cosas que tal vez son marca a lo largo de los años de nuestro colectivo. Aunque cambiaron muchas cosas, una cuestión es esta especie de experimentación e intento de socializar las herramientas tecnológicas, ¿no? Las formas de transmitir por televisión, por radio.
À ce moment-là, il y a deux choses en fait qui vont nous particulariser. En fait, c'est notamment le fait que on fait le choix de rendre plus populaire, plus donc le mettre au profit de la société, ces armes technologiques, notamment que sont la télévision, si.
Oui. Y también la otra cosa es el intento de generar a través de talleres, de espacios colectivos, de distintas formas de educación popular, de construir estos medios como una forma de organización y de trabajo colectivo.
Et l'autre part, en fait, qui nous marque, c'est en fait la volonté de mener à bien des ateliers, des formes de travail en fait communs et des ateliers populaires pour justement populariser et partager ces formes de d'expression en fait médiatique. Mm-hmm.
Bueno, nosotros así fue cambiando nuestro trabajo. Entonces, lo que en un primer momento había sido la televisión, después empezamos a ver que la radio tenía también mucha potencialidad. Uh-huh. Por ejemplo, en esa villa que tuvo una lucha muy fuerte en una toma de tierra, uh-huh, una ocupación de tierras que eran de la policía, pero que la gente quería que sean para usar para vivienda, nos pidieron de hacer radio, de hacer una radio. Entonces ahí empezamos a trabajar con radio.
Alors, donc au départ, on était sur la télévision, et puis progressivement, on s'est rendu compte que la radio avait effectivement une grande potentialité. Et c'est à travers notamment ce travail avec les gens du bidonville, donc de Villa Lugano, des gens qui ont mené une lutte très importante pour prendre possession de terres qui appartenaient à la police, et qu'ils considéraient que c'était légitime que de se les approprier. Et c'est ainsi donc qu'ont été mis en place donc ce premier projet de radio.
Sí. Después, bueno, nosotros hicimos entonces distintas formas de comunicación, desde lo que es la formación de cómo trabajar con la prensa, de cómo organizarse en un colectivo, de cómo trabajar con radio, con televisión, con internet, de hacer streaming, pero poco a poco fuimos viendo que había algo que hacíamos nosotros y que no hacía ningún otro colectivo, que era la construcción de los transmisores.
Alors, donc bien qu'on ait développé effectivement d'autres manières de travailler, donc de faire du streaming, de faire pas mal de choses, en fait, on s'est aussi rendu compte qu'au niveau technique, il y avait d'autres choses à faire et que nous, on pouvait faire que d'autres ne faisaient pas, c'était le fait de fabriquer des émetteurs.
Hubo un hecho que cambió un poco la situación de los medios en Argentina, que fue que el gobierno se peleó con el principal grupo concentrado de medios de Argentina, que es el grupo Clarín. Entonces el gobierno decidió impulsar una ley de medios que decían que iba a democratizar la comunicación.
Donc il y a quelque chose aussi qui a bougé les choses en Argentine, c'est notamment quand le gouvernement argentin a décidé donc de s'affronter à un groupe qui est donc plénipotentiaire, donc Clarín, qui est un grand groupe de presse, et à ce moment-là, le gouvernement a lancé l'idée de démocratiser donc les médias.
Entonces, esta nueva ley de medios generó muchas expectativas en mucha gente, en muchas organizaciones, en muchos grupos sociales que empezaron a hacer muchos más proyectos, por ejemplo, de radios y de televisión. Mm-hmm. Entonces, nosotros, aunque no confiábamos que esa ley vaya a cambiar fundamentalmente las cosas, siempre creímos que lo que sí hacía cambiar las cosas era que realmente la gente genere sus propios proyectos de radio.
Alors dans ce contexte, donc lancé donc cette loi lancée par le gouvernement, énormément de gens se sont pris à croire qu'il y aurait effectivement une grande liberté au niveau des médias et beaucoup d'idées ont surgi. Il fait nous donc ce que dit Fernand, c'est que nous de notre côté, on n'a pas pensé vraiment que ça allait fondamentalement changer tout, mais ce que l'on défend, c'est le fait que les gens puissent eux-mêmes faire leurs médias, leur radio. Mm-hmm.
Entonces nosotros empezamos a darle mucho impulso a esto que es hacer los transmisores, los transmisores, las antenas, las torres para las antenas, a un precio de costo para que sea barato, para que realmente toda la gente pueda hacer sus medios y que sin esperar a que haya cambios desde las instituciones, en la práctica, nosotros empezar a cambiar la realidad de la comunicación.
Alors nous, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné un grand élan donc, dans la construction, la fabrication donc, d'émetteurs, d'antennes, de moyens donc, de mener à bien son propre moyen média, ne partant pas de l'idée que c'était qu'il fallait attendre que les institutions donc, en donnent la liberté aux gens, mais d'aller clairement, pratiquement, même matériellement, le faire. Mm-hmm.
De hecho, creo que nosotros conseguimos muchas más transformaciones desde nuestra práctica autogestiva que el gobierno de lo que hizo desde dar un gran discurso, pero sin muchos cambios en la práctica. Entonces, ¿cómo fue posible que nosotros lo conseguimos con tan pocos recursos? Bueno, porque en realidad teníamos algo muy fuerte que fueron los procesos en los que nos fuimos organizando.
Alors de fait, on s'aperçoit que nous, avec notre pratique autogestionnaire, on a été beaucoup plus efficace donc dans la création de médias et la parole aux gens plutôt que le gouvernement avec ses grands discours. Donc, et comment est-ce que nous on a réussi ça alors avec si peu de moyens? Bah, sans doute simplement parce que on le fait.
Un ejemplo de esto es que nosotros somos parte de una red que existe desde esas épocas de la crisis del 2001, que es la Red Nacional de Medios Alternativos. Y con esta organización, que es una organización nacional de todos los distintos tipos que hay de medios alternativos, pero que lo que nos unen es una idea en común sobre el rol que tiene la comunicación alternativa.
Une des choses aussi qui nous retrouve les uns les autres, c'est que donc on a mis en place un réseau en fait donc de médias alternatifs qui a été mis en place dans toutes ces années-là justement de grandes mouvances, donc un réseau qui fait que justement on est beaucoup plus fort. Si.
Y gracias a esta organización común, por ejemplo, hicimos talleres para que las organizaciones construyeran sus propios transmisores. Entonces, por ejemplo, conseguimos que en una semana se construyeran 60 transmisores para organizaciones de todo el país.
Et
sin tener muchos recursos, pero sí con un trabajo colectivo, colaborativo y con bueno, con pequeñas colaboraciones de muchas organizaciones.
Et donc nous, on a mis en place des ateliers, à travers donc notamment la force de ce réseau, on a mis en place des ateliers qui ont permis de réaliser donc lors des séances d'ateliers plus de 60 donc émetteurs et par là même effectivement à prouver, à tester que donc ce réseau pouvait diffuser et faire à chaque fois plus de médias autonomes.
Bueno, y esta gran multiplicación que hubo de los medios alternativos y la organización que conseguimos en todo el país sirvió, por ejemplo, para que algunos pequeños pueblos del interior del país que tenían una lucha contra mineras multinacionales que querían contaminar la región y llevarse todos los recursos, estos luchas de pueblos muy alejados que los grandes medios no les daban atención, uh-huh. incluso que fueron muy reprimidos en un momento, gracias al trabajo conjunto de los medios alternativos pudimos frenar esas represiones y pudimos darle visibilidad a sus luchas.
Un exemple très concret, donc, c'est notamment dans les coins reculés de l'Argentine, notamment dans le nord, où il y avait donc des projets miniers qui devaient contaminer complètement donc des habitations, des populations. Et bien, grâce à tout un travail de réseau, où énormément de médias alternatifs ont donné une visibilité à ce qui se passait là, et bien, ça a non seulement permis donc de freiner la répression sur place, mais également de contrer assez efficacement donc la réalisation de ces projets donc dans des coins où en fait les populations n'intéressaient pas spécialement les grands médias.
¿Dónde
era exactamente ese proyecto?
Se construyeron radios para asambleas vecinales en contra de la megaminería en distintos lugares de Argentina, en Catamarca, en La Rioja. Pero yo te voy a hablar de un caso que es un buen ejemplo, que es el de Andalgalá.
Ok. Donc il y a eu effectivement des luttes à divers endroits donc d'Argentine, hein, toujours aidées et soutenues par des médias donc alternatifs, Catamarca, La Rioja. Mais là, je vais te parler d'un autre cas particulier. ¿Dónde es el caso
de Andalgalá?
En Andalgalá. ¿Dónde es Andalgalá?
Andalgalá es en la provincia de Catamarca.
Catamarca, d'accord.
Y ahí hay una asamblea de los vecinos del pueblo que se llama la Asamblea del Algarrobo, que el algarrobo es un árbol emblemático de la zona y ellos hacían su asamblea debajo de este árbol.
Elle a bien traduit. Donc là-bas, il y avait donc une assemblée donc de voisins qui menait donc qui s'appelle El Algarrobo. L'algarrobo étant un arbre en fait, un arbre emblématique donc d'Argentine, et les gens en fait menaient leurs assemblées au pied de cet arbre. Si.
Y esta asamblea, con la ayuda de la Red Nacional de Medios Alternativos, construyó su propia radio. Y en un momento de represión quisieron ir a sacarles la radio. Y ellos a través de la radio convocaron a todos los vecinos y se hizo una convocatoria muy grande de todo el pueblo y consiguieron parar la represión.
Donc ces gens donc à l'Algala, ils ont mené donc on les a aidés à mener faire leur propre radio, et à un moment donné la répression s'est abattue sur eux, notamment ils voulaient les pouvoirs voulaient fermer cette radio, mais c'est à travers les radios que justement ils ont fait appel à la solidarité de tous les voisins, et c'est ainsi que justement donc il y a eu une réelle résistance qui s'est installée et qu'ils ont pu gagner. Si.
Et después de eso la empresa minera contrató a matones que incluso cerraron las entradas del pueblo y no dejaban entrar y salir gente.
Wow.
Y como esto se denunció a nivel nacional por los medios alternativos, llegó a ser denunciado y también en la prensa masiva, tomó estado público, entonces se consiguió detener este accionar que tenían las mineras, con complicidad también de la policía que no hacía nada.
Alors à un moment donc dans ce conflit minier, donc les propriétaires donc ont fait appel à des polices privées qui non seulement donc se sont installées installées à l'entrée de la petite ville afin de filtrer les entrées, donc mener vraiment leur police personnelle, et ceci a été dénoncé donc bien sûr par les médias alternatifs sur place, et ensuite ça a donné même une telle audience à ce qui se passait là-bas que même les grands médias ont été amenés justement à réagir et à s'apercevoir qu'il y avait là donc une espèce d'exception. Et c'est par là même que ça a pu être dénoncé et il y a eu un recul donc des milices qui étaient notamment soutenues par la police sur place qui faisait rien. Si.
Bueno, eso es un poco la historia o los orígenes de nuestro colectivo y de los medios y de la red de la que somos parte. Ahora no sé si quieres hablar con Anita que te puede contar un poco más.
The message is just right on me.
Educas una mujer, educarás una nación. Mujer consciente al frente, todos los días revolución. Yo no soy ningún artista y esto no es ningún show. Frivolidades del show business, testify a boom. Lo tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad.
Alika y Nueva Alianza. Dale un micrófono a una mujer y habrá revolución.
Y los corruptos no paran de hablar.
Alors voilà, il n'y a pas que les corrompus qui parlent, et donc il y a aussi tous les autres. On se garde en fond sonore, Ali, qu'elle est à Nouvelle Alliance, mais on enchaîne tout de suite avec notre interview, puisque donc tu es à Paris, vous êtes à Paris, où ce soir, vous avez une première rencontre avec le public parisien.
Exactement, ouais, ce soir, c'est un peu le début de la tournée des médias alternatifs, donc on organise avec le collectif Pico Ipala, donc qui nous a aidé sur toutes ces rencontres qu'on va réaliser en France. On organise donc l'inauguration d'une expo photo, donc sur le collectif même, sur le travail du collectif. Et en marge de cette exposition, l'idée c'était d'organiser quelques événements. Donc ce soir, ça va être une rencontre autour justement de la communication alternative en Argentine. Donc l'occasion pour nous de présenter pas seulement le collectif, mais aussi, comme l'a dit Fernando, le réseau national des médias alternatifs, le contexte argentin, et de pouvoir échanger avec le public parisien sur justement la situation peut-être en France, en Europe. Et pour nous, ce qui est aussi très intéressant, c'est de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir créer des échanges. Peut-être qu'ils vont aller au-delà d'une simple rencontre à Paris, mais des échanges et des liens plus durables pour la suite. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant et même excitant comme collectif argentin de pouvoir partager avec des gens de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc voilà, c'est une tournée qui va continuer. Donc on va venir vous voir à Toulouse, oui. Donc vendredi. Donc je pense que voilà, Glenn vous en dira un peu plus sur cette rencontre. Et on finira dimanche à Marseille, donc avec Radio Galère, qu'on va rencontrer et qu'il y a plusieurs participants de médias locaux. Pour une rencontre un peu plus informelle, mais tout aussi enrichissante. Et voilà, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de pouvoir tisser des liens internationaux, donc avec des gens qui font la même chose que nous ou qui sont dans le, on va dire, dans le même secteur. Et voilà, on attend beaucoup de cette mini tournée.
D'accord. Et donc toi, tu es française, on rappelle, et tu as rejoint ce collectif donc au bout de quelques temps où tu étais sur place. Raconte rapidement ta rencontre avec DTL.
Oui, donc moi je vivais déjà sur place. Donc là aujourd'hui ça va faire presque 3 ans. Et donc en tant que photographe, je m'étais proposé de suivre plusieurs organisations sociales et politiques issues de la crise de 2001. Et puis petit à petit, voilà, mon chemin a croisé celui de DTL, et donc j'ai commencé à les suivre tout d'abord dans l'atelier où ils fabriquent les antennes et les émetteurs, et ensuite aussi sur la route, c'est-à-dire à la rencontre justement de ces radios qu'ils allaient monter. Et voilà, j'ai pas pu rester en dehors du collectif très longtemps parce que finalement j'ai décidé donc de devenir un membre comme les autres et de pouvoir collaborer dans ce que je pouvais. Donc la photo reste assez présente dans ma participation parce que c'est aussi un moyen de raconter, de partager et aussi de garder en mémoire toutes ces radios qui naissent, toutes leurs histoires. Donc voilà, je suis pas la seule étrangère dans le collectif, on a aussi un basque et 2 Chiliens, donc finalement sur on est une quinzaine, donc finalement la proportion internationale est déjà bien ancrée. Et donc c'est vrai que moi en tant que Française, j'avais très envie de pouvoir faire les liens entre les deux pays et des expériences qui, même si elles sont loin, ont beaucoup à partager. Et c'est quelque chose qu'on essaye de faire à chaque fois qu'on a l'opportunité, que ce soit ici en Europe ou dans d'autres pays latino-américains où on a aussi pas mal de contacts.
D'accord. Donc rapidement, donc tu dis tisser des liens effectivement avec l'Europe, avec la France, etc. Concrètement, ça veut dire quoi? Que c'est un échange finalement, parce qu'il y a des choses que vous savez faire et que vous pouvez apporter. Et est-ce qu'il y a des choses que vous attendez en retour?
Exactement. Il y a des choses qu'on pense nous pouvoir apporter par de par nos expériences. On a aussi très envie de recevoir des gens chez nous, c'est-à-dire éventuellement on l'a déjà fait des formes de, je vais mettre un mot, c'est pas exactement ce mot-là, mais de stage, c'est-à-dire pouvoir recevoir plusieurs personnes pendant plusieurs mois et transmettre justement ce savoir sur place, c'est pas seulement un savoir technique, mais aussi leur permettre de voir les formes d'organisation qu'on peut trouver en Argentine, leur donner un panorama justement de ce qui s'y passe. Et après, nous, on a aussi des choses à apprendre d'ici certainement, même au point de vue technique. C'est vrai que une grande partie de notre travail, comme on l'a dit, c'est quand même de fabriquer des antennes et des émetteurs. Donc il y a aussi du matériel ici dont on peut avoir besoin, des idées, des technologies, et ça c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des contacts sur place pour pouvoir s'actualiser et partager tout ça. Donc je pense que l'intérêt est à double sens, et l'envie aussi.
D'accord.
Donc voilà, donc c'est le début. On va voir après où est-ce que ça nous mènera.
D'accord. Tu restes avec nous, Anita, donc, et puis on continue donc cette conversation avec Glenn du collectif El Cambuche, qui vous invite donc ce vendredi 9 janvier à 19h à la chapelle. Tout d'abord, Glenn, bonjour.
Bonjour.
Et navré tout à l'heure, j'ai écorché ton nom. El Cambuche, si tu peux nous présenter donc justement, qu'est-ce que le Cambuche?
Alors le Cambuche, disons que c'est un peu un espace de rencontre, de mobilisation autour des luttes en Amérique latine, qui existe depuis une grosse dizaine d'années, qui à la base se réunissait surtout au moment du festival Ciné Latino, dans la cour de la Cinémathèque, à d'abord tenir une table pour informer un petit peu des luttes là-bas, et puis petit à petit organiser des projections, des débats, des rencontres, voir des expositions, des petits concerts, enfin voilà, essayer de mobiliser un peu les gens pour pouvoir parler de tout ce qui se passe là-bas. Donc c'est différent, à la base c'était plutôt un collectif d'associations, aujourd'hui c'est un peu plus des individus, mais qui sont toujours très en lien avec l'Amérique latine, et on essaie de faire un peu connaître les initiatives de résistance populaire qui existent là-bas. Il y en a beaucoup, on les connaît pas toutes, loin de là, et voilà, DTL est un exemple. On est très content de pouvoir les inviter en lien avec Pico et Pala à Paris, pour faire connaître un peu, et puis pour pouvoir aussi discuter, faire des ponts. Disons que l'idée, c'est pas juste de regarder ce qui se passe en Amérique latine en disant ouais, c'est vachement bien, ou au contraire, oh, c'est horrible la situation, qu'est-ce qu'ils font. Mais c'est aussi se dire, nous, on a des situations plus ou moins semblables ou pas, on a des solutions plus ou moins semblables, regardons comment ça se passe, et éventuellement prenons des exemples des deux côtés de l'Atlantique, ou en tout cas, voilà, faire des liens.
D'accord. Comment ça va se passer vendredi soir, donc à la chapelle, au 36 rue Daniel Casanova à Toulouse?
Alors, ça va se passer, du coup, c'est ouvert à tout le monde, tous les gens qui sont intéressés par les médias ou tous ceux qui sont intéressés par l'Amérique latine. On va commencer par voir un petit film fait par DTL, justement du montage d'une des radios qu'ils ont fait. On verra aussi peut-être quelques photos d'Anita, et puis on va discuter tous ensemble, que DTL nous raconte un peu son expérience, comme ils ont pu le faire là à la radio, qu'on puisse approfondir des questions, mais que aussi puisse poser des questions à des médias, si Canal Sud est présent, ou d'autres radios, ou d'autres médias. On sait qu'il y en aura déjà quelques-uns qui seront là pour partager, et puis aussi un petit repas, peut-être un peu de musique à la fin, si on est motivé pour danser un peu et se réchauffer. Enfin, voilà, l'idée, c'est de faire une rencontre un peu pas trop formelle non plus, enfin, voilà, et de partager aussi tous ensemble un beau moment autour de ça.
D'accord. Si Anita, tu veux ajouter quelque chose à la soirée de vendredi soir?
Voilà, nous on a vraiment hâte. Aucun des deux ne connaît Toulouse, donc déjà ça c'est, on est quand même super content de pouvoir voir une ville qu'on connaît pas, de sortir un peu de Paris aussi, parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir la France, mais pas seulement de voir Paris, et de pouvoir échanger avec des contextes locaux peut-être différents. Donc voilà, nous on est super super content, super enthousiaste, et voilà, on se retrouve vendredi de toute façon.
C'est clair. Est-ce que de près ou de loin, vous avez besoin de fonds particuliers pour réaliser certains projets?
De quoi, pardon?
Vous avez besoin de fonds, est-ce que vous avez besoin de sous?
En fait, de fonds, on a surtout besoin d'aide à la technologie. C'est-à-dire, il y a certaines pièces qu'on doit importer pour réaliser les émetteurs. Et c'est quelque chose qui est très difficile en ce moment en Argentine. Donc, c'est un de nos gros soucis. Donc en fait, l'idée aussi, c'est peut-être de pouvoir avoir des contacts de gens qui pourraient nous aider pour certaines techniques. Pièces techniques, à voir comment, de manière alternative, on pourrait se procurer ces pièces. Mais c'est un peu le gros problème, voilà.
D'accord, donc, mais finalement, finalement, vous êtes très, très autogestionnaire.
Oui, donc on trouve toujours des solutions, mais voilà, c'est vrai que des fonds, ça serait par rapport à ce genre de pièces techniques, quoi.
D'accord, impeccable. Peut-être que tu peux aussi, Annie, t'as donné un site internet où on pourrait aller voir des informations sur DTL et...
Tout à fait. Donc, on a une page web qui est DTL Comunicación Popular en espagnol, mais bon, je pense que plus ou moins vous pouvez trouver en tapant sur internet. DTL Comunicación Popular .wordpress.com et après sur Facebook, pareil, DTL Comunicación Popular. Sur les deux pages, vous pouvez nous écrire. On est assez rapide en général dans la réponse.
D'accord.
Donc voilà. Là, on met en général toutes les actualités, quand une nouvelle radio venait, voilà, les photos, tout est là.
Oui, on peut rappeler quand même qu'effectivement, donc vous avez à votre actif à peu près 60 à 70 médias, donc notamment radio, qui ont été créés, plus notamment ces deux ateliers menés en 2011 et 2012, où à chaque fois une soixantaine donc de émetteurs ont été mis en place. Donc vous essaimez terriblement.
Voilà, donc il y a des ondes un peu partout sur le territoire argentin, donc voilà, ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'une nouvelle radio naît, c'est ce qu'on dit toujours, c'est pas une nouvelle concurrence, c'est au contraire un nouveau point sur la raide solidaire et de la contre-information. Donc on espère que ça va continuer.
D'accord. Donc Glenn, justement, donc de côté donc du Kombucha, comment on peut avoir les informations concernant un Kombucha?
Ben, c'est pareil, on a un site internet, c'est elcambuche.jimdo.com.
D'accord.
On n'a pas de Facebook encore, on est un peu à l'ancienne.
Tant mieux, continuez.
Mais voilà, et puis donc voilà, là vous pouvez trouver des infos des prochaines soirées, donc vendredi prochain à 19h à la Chapelle. On fait aussi une projection le 22 à la Maison Blanche, à quartier Arnaud Bernard, sur un documentaire qui s'appelle Mouchaïcha, un cauchemar voyou. Donc ça, c'est cas des mines, on en parlait un petit peu avec des télés. Un projet de mine à ciel ouvert de charbon qui existe depuis déjà une vingtaine d'années, je crois.
Où ça?
Dans le nord-est de la Colombie, la Guajira.
D'accord.
Et qui menace une population indigène qui est installée là depuis des siècles et des siècles. Ouais. Donc voilà, ça, on fait une projection le 22 au soir à 19h30, je crois. Et puis après, on sera présent pendant Ciné Latino, donc fin mars. On fera une semaine de projection et de rencontres. Voilà, mais toutes les infos donc sur le site elcambuche.jimdo.com.
Voilà. Merci beaucoup, Glenn. Muchas gracias, Anita y Fernando.
Bueno, gracias a ustedes.
Et un très chaleureux aussi merci à Anita La Roja de Kombucha qui a permis donc la mise en lien et donc écoute tout cette interview puisse se faire. Merci et donc Anita. Donc merci beaucoup et on vous dit donc à vendredi donc à la Chapelle, hein, donc sur donc Toulouse au 36 rue Daniel Casanova. Voilà. Merci beaucoup, c'était Les Petits Papiers sur Radio Canal Sud au 92. Merci beaucoup au magazine qui nous a permis de mener à bien aussi cette interview jusqu'au bout, malgré le retard pris. On rappelle aujourd'hui le mot du jour, désobéir, c'est vivre. Désobéir, c'est vivre.